Bienvenue dans Les Centres Passagers, une émission de Virgile Fraisse, montée par Arnaud Ledoux, mixée par Valentin Fleury, en coproduction avec la radio DU. Nous vous proposons d'écouter le portrait de centres d'art contemporain français, mis en difficulté ou ayant disparu. Les Centres Passagers se veut être la mémoire de ces espaces temporaires, d'histoire d'art, de projets poétiques, radicaux ou engagés. Pour cette première saison, 4 centres d'art, 4 épisodes, une ancienne usine d'embouteillage, une église désacralisée, une ex-caserne militaire et une ancienne chaudronnerie. Dans ce premier épisode, un parc naturel, une source thermale et plus de 20 ans d'expositions et d'événements au-dedans et hors les murs de cette ancienne usine d'embouteillage près de Nevers, le parc Saint-Léger. Nous écoutons les récits des employés de ces 10 dernières années. Franck Balland, Léa Mérite, Sandra Patron, Céline Poulain, Chantal Scotton, Anna Zachman, toutes et tous ont participé à la programmation, la médiation, la création et la diffusion de l'art dans la Nièvre. Les enregistrements se déroulent en 2021, quelques semaines avant la fermeture définitive des lieux. Écoutez, aujourd'hui, le parc Saint-Léger.
Mon premier rapport au centre d'art, ça a été celui de l'entretien, du recrutement. Et c'est assez drôle parce que finalement, j'arrivais de Marseille. Je dirigeais une autre structure, Triangle France, à Marseille. Je suis arrivée à l'entretien et le souvenir que j'en ai, c'est de ne pas avoir été du tout effrayée. Alors que j'étais une urbaine, alors que je suis une femme du Sud. Et donc, quand je suis arrivée pour passer mon entretien dans ce parc romantique, je pense en plus, j'en suis pas sûre, mais il me semble que c'était en hiver, ou en tout cas, il faisait pas beau, comme très souvent par là-bas. Et je suis sortie de là avec une excitation. D'abord, je suis sortie de là en me disant, ce lieu, il est fait pour moi.
Je pense que j'ai entendu parler du centre d'art au départ, quand j'étais au lycée, par mon prof d'art plastique. Et c'est Jean-Pierre Bord qui nous avait parlé de ce lieu sans nous y emmener.
J'avais entendu parler de ce lieu avant, mais je l'avais jamais visité. Et donc j'ai découvert le lieu avec mon entretien, en fait. J'ai passé l'entretien d'embauche et j'ai découvert ce lieu sous la pluie pour l'entretien.
Pour ma part, j'y suis allée la première fois quand j'ai postulé pour le poste de chargée de programmation hors les murs en 2010. Exactement, j'ai pris mes fonctions en juin 2010. C'était pour moi une évidence quand j'ai découvert ce projet hors les murs d'aller là-bas. Et ce qui m'intéressait vraiment, c'était cette implication de la pratique amateur dans la production artistique.
Je connais ce lieu depuis très longtemps. Je travaillais encore dans le milieu de la danse contemporaine et que je le connaissais. Je pense que ça remonte à l'époque de la direction de Danielle Hivergnaud, puisqu'elle programmait de la performance, ce qui était quand même particulier dans le cadre des centres d'art.
J'avais 26 ans et j'étais venue par hasard voir une exposition pour la première fois au parc Saint-Léger. Et à cette occasion, j'avais sympathisé avec Christelle Gouillot. Et de fil en aiguille, j'avais compris qu'un poste, en fait, devait être créé au Parc Saint-Léger pour la remplacer, elle, qui était à l'accueil et qui s'occupait aussi de la communication. Donc, en fait, la directrice de l'époque, Danielle Hivergnaud, avait créé le poste et m'en avait parlé pour, voilà, si ça m'intéressait. Je débarquais un peu dans l'art contemporain, j'avais pas de formation pour ça, j'avais pas fait les études pour ça, mais j'étais enthousiaste, et donc en fait elle m'avait créé le poste pour que je m'occupe à la fois de l'accueil et du fonds documentaire.
Quand je suis arrivé en 2011, j'étais chargé des publics et de la programmation culturelle. Donc mes missions essentiellement c'était d'accompagner les expositions d'un point de vue de la médiation, donc de donner une orientation au public, que ce soit par l'écriture des textes relatifs aux expositions, la conception de documents pédagogiques, de documents de médiation, en fait, de toutes sortes, de toutes formes.
J'ai commencé à travailler en 2018, donc ça fait 3 ans et demi. Globalement, j'étais quand même seule sur le poste. Bon, ce qui était pas mal parce que j'ai pu voir vraiment tous les champs de la médiation, mais ce qui était aussi voilà, un peu prenant.
J'ai toujours eu quasiment un double poste, en fait, jusqu'en 2013. C'est l'année où Fanny Martin, qui était chargée de communication, est partie. J'avais développé le site web avec la graphiste Fenette Mélier. On avait refait la charte graphique à cette époque-là.
Je m'occupais un peu de la coordination des résidences et du suivi. Et puis, il y avait aussi une relation forte entre les résidents et la programmation hors les murs. Avec jamais d'obligation. Et ça, c'était aussi un truc super important dans le projet de Sandora et que moi, je partage complètement encore aujourd'hui. Les résidents pouvaient, s'ils le souhaitaient, faire partie de la programmation hors les murs, mais ils n'étaient pas obligés. C'était vraiment une résidence de recherche et de production si les artistes souhaitaient produire, mais il n'y avait pas d'obligation de production non plus. C'était un espace quand même de liberté assez important.
Donc dès le départ, j'ai pris ça comme une chance et j'ai pris ça comme un territoire d'exploration, comme un laboratoire sur lequel finalement on allait pouvoir jouer d'une certaine manière. Et la chance que j'ai eue, je crois, elle a été double. Elle a été de rencontrer des gens, parce que je ne peux pas parler du Parc Saint-Léger sans parler de Vincent, de Franck, de Léa, de Fanny, de Michel. Je crois que sans se le dire, sans vraiment même être aussi explicite que ce que je suis en train de dire, on s'est tout de suite dit que ça va être une terre de liberté.
Bah, le fait qu'il y ait des résidences et des artistes qui vivent sur place crée une sorte d'écosystème et va de toute façon rendre un peu flou les frontières entre le travail et le non-travail. Donc il y avait aussi ce truc d'une vie un peu de communauté qui était liée au fait que ce soit au Parc Saint-Léger, pas à Nevers. C'était un modèle, oui, qui était lié à la structure du lieu. Michel, qui s'occupait du ménage, donc de l'intendance, elle était inclue dans l'équipe. C'est pas comme dans d'autres endroits où les personnes qui s'occupent du ménage, elles sont prestataires de service. Ça, c'est aussi important.
La période Sandra Patron, c'était pour moi un peu l'âge d'or en fait du Centre d'Art. Personnellement, moi, je commençais à prendre mieux mes marques et bien qu'il y ait eu pas mal de mouvements dans l'équipe, on a réussi à trouver une cohésion. Je trouve, enfin, vraiment quelque chose de très humain et qui imprégnait tout le reste en fait. C'est-à-dire que Sandra, c'est quelqu'un qui avait une énergie fantastique, qui arrivait à fédérer tout le monde, que ce soit les gens de l'équipe, que ce soit les partenaires, que ce soit les artistes. Il y avait un engouement, en fait, à ce moment-là, je trouve.
Et la deuxième chance qu'on a eue, c'est que finalement, cette fameuse diagonale du vide, eh bien, ça fait qu'on a rencontré des gens sur place qui avaient soif, en fait. Qui avait envie, qui avait soif, qui était totalement délaissé d'une certaine manière par les politiques publiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est dans la périphérie de la périphérie en France, et c'est pour ça que moi j'ai été très solidaire du mouvement des Gilets jaunes, c'est parce que j'avais fait l'expérience de ce que c'est d'être finalement un peu un citoyen de seconde zone. C'est-à-dire, tu n'as pas la culture que les autres ont. Tu n'as pas accès à des institutions auxquelles les autres ont accès. Ton hôpital, il est problématique. Et même les gens qui travaillent à l'intérieur de l'hôpital te disent, si tu as un problème, fais 100 km pour trouver un bon hôpital, parce qu'ici, ce n'est pas un bon hôpital. Tes enfants vont dans des écoles qui sont des écoles de seconde zone, etc., etc. Et en même temps, il y a des richesses, il y a des gens, il y a des désirs, il y a des rêves. Et donc, assez rapidement, on est allé rencontrer d'autres personnes. Et du coup, bien tous les projets un peu fous dont on a rêvé, on a réussi à les mettre en place parce que il y avait des envies et il y avait des désirs.
Il y a eu 3 cycles, même. Il y a eu des cycles, en fait, je trouve, très liés aux prises de poste des directrices. Mais je pense qu'à chaque changement de direction, s'il y a des postes vacants, en fait, la nouvelle direction crée une équipe à son image, entre guillemets.
Je suis arrivée en 2010, et le juin 2010, je suis partie en décembre 2014. Entre-temps, j'ai fait un enfant, donc j'ai été un peu en arrêt, mais j'ai toujours travaillé pendant mon congé maternité parce que j'étais très fan de ce que je faisais.
La dynamique, elle était aussi là, hein. C'est qu'il y avait, des workshops, il y avait donc ces stagiaires, il y avait des projets tout le temps, même parfois trop de projets. Je pense que c'est pas mes collègues de l'époque qui diront le contraire. On était un peu débordés, mais on était débordés et contents, je pense. Enfin, je parle pour les autres, mais je pense pas me tromper.
Le premier constat que j'ai fait, c'est de me dire « Ok, c'est la diagonale du vide. On est un enjeu pour personne. Je sais même pas, en fait, pourquoi la puissance publique, d'une certaine manière, a décidé de mettre de l'argent à cet endroit-là. Mais le fait d'être un enjeu pour personne, en fait, ça donne une liberté incroyable. »
On travaillait dans tout le département. Donc oui, il y avait 9 salariés, mais il faut voir que ces 9 salariés couvraient un département entier.
Je crois que l'autre idée qui nous a intéressés, et là c'est aussi l'apport de Céline Poulain quand elle est arrivée, c'est cette question d'aller au-devant des gens et de développer d'autres manières beaucoup plus collaboratives en fait, avec des publics, de co-concertation, de co-construction. Qui évidemment sont très présentes dans le champ actuel des recherches en art, mais qui, à 10 ans, l'étaient un tout petit peu moins. Et du coup, ça a aussi déplacé les pratiques des artistes. On les a aussi embarqués dans des histoires, aussi à se confronter à la question de qu'est-ce que c'est que parler à quelqu'un qui ne connaît rien à l'art, comment on l'embarque avec soi, comment on co-construit ensemble.
Sortir de son espace de confort et aller... vers l'autre et vers un champ disciplinaire qu'on maîtrise pas va provoquer forcément quelque chose. Donc par exemple, quand j'invitais un artiste à travailler avec des ferronniers d'art, j'allais choisir vraiment un artiste qui n'y connaissait rien en ferronnerie. L'idée, c'était aussi que l'artiste soit pas en position de maître et de sachant, mais qu'en fait, chacun soit sachant et apprenant et qu'il y ait cet échange, en fait.
J'ai aussi des souvenirs de vraies difficultés. Il n'y a pas eu que des bons souvenirs. J'ai notamment un souvenir très, presque douloureux avec Emmanuel Lenné, qu'on avait invité à intervenir dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, au fur et à mesure du process de la production de l'œuvre, il y avait une très forte relation entre nous, Emmanuel, et les patients. Et au fur et à mesure, c'est créer un antagonisme avec le personnel de l'hôpital, et notamment les cadres, et notamment les médecins, et notamment la direction de l'hôpital. On a mis un peu de temps à comprendre, en fait, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se crisper. On l'a compris, les messages, à un moment donné, ont été assez clairs, puisqu'on a eu, je me souviens bien, une photo de caca positionnée sur la porte de l'atelier de l'artiste. Donc j'ai essayé, voilà, de créer des endroits de médiation et de dialogue, donc vraiment avec les cadres et la direction, qui m'ont été refusés. Et en fait, parce que je pense que la directrice, en fait, de l'hôpital voulait faire un esclandre public. Et donc a attendu le moment du vernissage pour signifier à quel point elle trouvait ça scandaleux, à quel point ce n'était pas de l'art, et qu'elle savait ce que c'était de l'art, et qu'elle allait au musée, etc. Et donc, on a vécu, mais sincèrement, c'était félinien. C'était une sorte de moment d'une intensité émotionnelle forte, avec l'artiste qui part en courant dans la pluie, moi qui m'effondre également, et en même temps, après on est revenu pour parler aux gens, avec les patients de l'hôpital psychiatrique qui se sont rebellés contre la direction au moment du vernissage. Donc voilà, tout n'est pas simple. Mais on est, je crois, oui, que ça a quand même été l'occasion pour moi de tester ça sert à quoi, l'art, en fait ?
Quelqu'un qui, par exemple, une fois, on m'avait dit dans la rue, je me souviens, à Nevers, je sais pas pourquoi, j'ai rencontré un type qui m'interpelle et il me dit « Ah, le parc Saint-Léger, mais de toute façon, vous sortez jamais de chez vous. Vous êtes super fermé et tout. » Je lui dis « Ben non, en fait, on fait une quinzaine de projets. » J'étais un peu boulimique de projets. Donc, on fait une quinzaine de projets hors les murs. Et en fait, il le savait pas et il voulait pas le savoir.
Quantitativement, il n'y avait pas un public de dingue. Et je pense que ça a été un des arguments, évidemment, qui a été utilisé par le politique. Mais c'est aussi parce qu'on ne faisait que de la dentelle, en fait. Donc on n'était que dans des projets avec des petits groupes de personnes, sur du long terme, sur parfois des processus de production qui duraient plusieurs mois. Donc évidemment, on ne peut pas être dans le quantitatif. Donc ça, c'est une faille de ce système qui fait qu'on n'a pas pu répondre, sans doute, aux injonctions du politique. Après, il faudrait peut-être qu'à certains moments, le politique s'interroge sur les injonctions qu'il pose au directeur d'institution. Parce que c'est quand même le politique qui a fait le choix d'installer une institution à cet endroit-là, et pas à Nevers, par exemple, qui était quand même le bassin de population le plus important.
Comment le centre d'art a été installé ici ? Et à quel point la ville de Pougues a subi cette implantation ou pas ? Mais bon, on est dans le parc de verdure qui appartenait jusqu'à quelques semaines au conseil départemental et qui est inséré dans la ville de Pougues. Voilà. Donc c'est le conseil départemental qui a décidé de mettre le centre d'art ici.
Le lieu était très suivi par une petite bande de personnes qui, de près ou de loin, étaient très attachées à la question culturelle sur le département.
Moi, le souvenir que j'en garde, c'est vraiment des aventures un peu folles. C'est vraiment des souvenirs aussi de joie, en fait. De joie, de fêtes, de moments partagés. De se dire, ah tiens, si on faisait une maison, et qu'après, pendant des mois, on invitait des gens dans cette maison, dans un parc où normalement, on n'a pas le droit de construire des maisons. Ça, c'était le projet Bracing House avec Jean-Pascal Flavien.
Tout le temps de montage, l'accompagnement de Flavien. Moi, je me souviens, j'écrivais des petites notices sur chacune de ces maquettes, tu vois. Donc, je l'enregistrais, là, comme tu le fais aujourd'hui, me raconter comment chaque petite maison était née, et je faisais une notice sur chaque petite maison. Je ne sais même plus combien il y en avait, mais il y en avait énormément. Et donc, ça a été vraiment un projet, encore une fois, par rapport à la taille de notre structure, assez dantesque, quoi.
Avec l'arrivée de Catherine, je pense que tout le monde, en fait, était dans l'attente d'un renouvellement, aussi, de quelque chose qui avait pris fin. Donc, nous, on était ouverts à tout. Moi, j'avais des attentes aussi. Je me disais, je vais peut-être pouvoir apprendre maintenant encore d'autres choses avec quelqu'un qui a un autre parcours, une autre expérience, une autre vision de tout ça. Et donc, voilà, je pense qu'on était plutôt dans de bonnes dispositions à ce moment-là et on attendait de voir. Je pense que ça allait dans les deux sens d'ailleurs, et que elle aussi, en fait, peut-être attendait de voir. Je pense que personne a vraiment réussi à trouver sa place, en fait, dans cette nouvelle formule. Et des tensions ont entraîné des tensions et ont entraîné une décohésion. Il y a des gens qui ont souhaité quitter l'équipe finalement assez rapidement. Je suis une des dernières à l'avoir fait.
Je pense que le centre d'art à ce moment-là est arrivé à un moment assez délicat de son histoire, qui a abouti à la situation actuelle. Je pense que c'est les premiers pas de glissement, justement, dans le conflit avec les différentes tutelles qui a pu avoir lieu et qui a conduit à cette situation de métamorphose à laquelle on est confronté actuellement.
Moi, je pense qu'il y a un problème institutionnel assez important. Qu'il y a eu un problème de manque de responsabilité du conseil d'administration qui a été alerté assez rapidement il y a plusieurs années sur le chemin qui était en train d'être pris. Donc ça je pense que c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on a eu des salariés qui ont très vite vu que les choses allaient pas bien se passer et qui n'ont pas été écoutés.
Je pense que le management, c'est quelque chose qui s'improvise pas. Je pense qu'il faut avoir envie de partager des choses. Je pense qu'un centre d'art n'est pas qu'un lieu ouvert à des commissaires d'exposition. C'est un lieu qui doit être aussi pensé dans sa relation aux personnes qui l'habitent. Donc voilà, je crois que la difficulté, ça a été d'avoir affaire aux envies d'une personne qui, elle, ne se projetait pas sincèrement dans le lieu, mais se projetait en tant que commissaire à un endroit où il fallait vraiment quelqu'un qui était prêt à prendre à bras-le-corps tout un territoire, en fait.
Le choix qui a été fait de considérer, et ça, je l'ai entendu, que la programmation hors les murs, c'était pas de la création, mais que c'était de la médiation. Alors, pour moi, c'est stupide parce que la médiation, pour moi, c'est quelque chose de l'ordre de la création. Mais donc, la personne qui disait ça considérait que la médiation, c'était un peu de la merde. Donc, qui considérait que tout ça, ça n'avait pas d'intérêt. Je pense que c'était déjà annoncé la mort du projet. Et si Sandra avait fait ce choix d'une programmation hors les murs importante, c'est parce qu'elle savait les enjeux politiques qui étaient derrière. Et dans la programmation in situ, il y avait ce travail aussi de maillage avec le territoire. Par exemple, le projet d'Alain Bublex, qui était un projet incroyable. Enfin, cette question de... Enfin, je pense que Sandra, elle a un peu la même façon de travailler aussi sur l'étude du contexte et de penser des projets qui vont fonctionner dans le contexte. Elle a mis en place un projet de nouveau commanditaire avec Wilfried Amendra. Il y avait ce travail-là qui a été fait, qui ensuite a été oublié, qui justement, je pense, la programmation qui a suivi ensuite a pas assez pris en compte le contexte local, en fait, et la réalité de ce contexte.
Tout ça, finalement, aurait pu peut-être être, à mon avis, solutionné plus rapidement, peut-être avec une meilleure communication, avec une meilleure écoute de la part des gens qui n'étaient pas au centre des conflits, mais qui étaient extérieurs, qui ne travaillaient pas avec nous, c'est-à-dire notamment les gens du conseil d'administration, nos soutiens financiers, les tutelles. Beaucoup de gens qui, peut-être, avec un regard extérieur, auraient pu nous aider tous, en fait, à peut-être poser les choses et trouver des solutions. Ce qui n'a pas été fait. Nous, pour notre part, en fait, signaler assez souvent des dysfonctionnements. On était inquiets, hein. Il y avait une grande inquiétude pour le lieu, pour ce qu'il allait devenir. Et on n'a pas du tout été entendus ni soutenus. En fait, moi, c'est ça mon grand regret, c'est que... On a fait ces signalements, on a tiré les sonnettes d'alarme plusieurs fois. Donc on a été entendu, mais pas écouté. Tout ça, en fait, c'est resté lettre morte. On a eu peut-être beaucoup de discours un peu langue de bois. Oui, on comprend. On va faire ce qu'il faut. Et puis finalement, rien n'a jamais été fait. Et voilà, la situation s'est dégradée jusqu'à la fermeture actuelle, en fait, de ce centre.
Je crois qu'on n'analyserait pas du tout la situation de la même manière si ce qui se passait à Pouglézeau était unique. Ce qui se passe à Pouglézeau s'est passé, se passe en ce moment même et va sans doute malheureusement continuer à se passer dans quand même pas mal d'endroits. Donc on est obligé de se questionner sur une forme systémique. Pourquoi ces institutions sont-elles si fragiles? Et là, à mon avis, il y a plusieurs éléments de réponse. La première, elle est politique. Pour quelles raisons la puissance publique décide à un moment donné de créer une institution artistique? Quels sont les enjeux qu'elle se donne? Comment parfois elle instrumentalise aussi l'artiste, sa position et sa parole au nom d'enjeux qui sont très loin des enjeux de l'art. Comment il y a une défaillance systémique en France sur le système de gouvernance des institutions artistiques. Il y a des alertes qui sont données, un système de gouvernance qui ne les entend pas, ou qui les entend trop tard, qui n'est pas formé, ça c'est pour moi quelque chose d'extrêmement important, c'est la question de la formation, et la question du fait que notre milieu est très peu professionnalisé encore, malheureusement.
Toute structure doit faire face à des problèmes conjoncturels, des problèmes de personnes, des problèmes de changement politique, ça c'est très important. Mais si structurellement, elle est habituée à fonctionner avec les bonnes personnes, qui ont les bonnes, enfin, chacun connaissant ses responsabilités, sachant faire appel à des services quand on n'a pas les compétences.
Là, par exemple, je travaille dans une collectivité territoriale. Je suis outillée en tant que directrice d'un ensemble de protocoles qui me permettent d'assumer certaines situations. C'est-à-dire que si j'ai un cas de harcèlement dans mon équipe, si j'ai des cas de violence, de conflit, j'ai des outils qui ont été pensés par des professionnels pour m'aider à assumer ces situations. Très souvent, les équipes, et notamment les équipes de direction, ne sont pas formées parce que ce sont des historiens de l'art, ce sont des curateurs, donc ils n'ont pas été formés au management. Management, c'est un mot horrible, mais c'est une réalité extrêmement complexe. C'est dur, en fait. C'est un métier difficile auquel la plupart des directeurs n'ont jamais eu aucune formation, ni initiale, ni tout au long de leur vie professionnelle. Alors que normalement, dans un parcours professionnel, il y a ce qu'on appelle la formation permanente. Ça n'existe pas dans notre milieu. Donc il y a ce premier problème. Il y a un deuxième problème de système de gouvernance avec, je dirais, des tutelles qui très souvent ne prennent pas leurs responsabilités en cas de difficulté, ont eu tendance, et j'ose espérer que justement toute cette parole autour de ces situations va réussir à faire débloquer les choses, mais ont eu tendance à mettre sous le tapis des difficultés réelles parce que eux-mêmes étaient démunis, parce que eux-mêmes ne sont pas formés à la gestion de conflits et à toutes ces questions de ressources humaines. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets qui me semblent passionnants, dont les réseaux professionnels devraient se saisir, parce que la récurrence des difficultés fait que je pense qu'il est temps de regarder certaines réalités en face. Il est temps d'établir une table de discussion et de négociation avec les tutelles, donc avec le ministère de la Culture, avec les collectivités territoriales, en disant vous ne pouvez pas nous imposer des enjeux si énormes, parce que c'est ça aussi la difficulté d'une direction et des équipes. Si peu de moyens financiers, des équipes si petites qui doivent avoir 10 métiers dans la journée, 25 compétences différentes. Moi, en tant que directeur, mais il n'y a pas que moi, c'est le cas du régisseur, c'est le cas de la médiatrice, mais moi, j'ai 15 métiers dans une journée. Je dois être très forte en budget, je dois être très forte en politique, en plus je dois être une super curatrice, je dois être une très bonne manageuse, je dois être une communicatrice hors pair. Je crois qu'il faut mesurer ce qu'on met en face des enjeux. Alors soit on a des enjeux démesurés et en face il faut outiller pour qu'on ait la possibilité de développer ces enjeux, hein. Soit il faut modérer les enjeux, soit il faut faire comme le fait beaucoup le milieu du spectacle vivant, c'est-à-dire que, par exemple, les directions sont toujours des directions généralement bicéphales, avec une direction artistique et une direction administrative et de ressources humaines. Rappelons quand même que le ministère de la Culture, pour 1 euro qu'il donne au secteur des arts visuels, donne 10 euros au secteur du spectacle vivant.
Je suis arrivée en janvier 2017 au Centre d'art et je suis donc administratrice. Et il est vrai que derrière une programmation qui se déroulait tout à fait normalement, j'ai pu constater, plusieurs problèmes de fonctionnement qui, petit à petit, ont commencé à vraiment m'inquiéter. Tout d'abord, la chose la plus importante, c'est le président avait annoncé très clairement en 2015 qu'il ne souhaitait pas se représenter. Donc quand je suis arrivée, ça faisait déjà 2 ans que son départ était annoncé, puisque son mandat, comme tous les mandats des administrateurs, est de 3 ans. Et je constatais qu'aucune démarche n'était effectuée, aucune personne n'avait été ni même approchée pour lui trouver un successeur. Jusqu'à ce que, à peu près en mars 2018, une AG qui devait élire un nouveau conseil d'administration se réunit sans candidat préalable. Voilà. Et donc ça, le fait que cette chose ait pu se passer est déjà très significatif. Et on peut rajouter que le représentant du département, du conseil départemental, a dit découvrir qu'il fallait élire un nouveau président, alors que le président lui-même l'avait annoncé 3 ans avant et que ça avait été redit. Voilà. Bon, ça, c'est une première chose. Donc, on constate une gouvernance, un conseil d'administration qui est quand même très inerte. Enfin, une vraie inertie qui à ce niveau-là, était très significative.
Mon parcours, il m'a amené à vivre 7 ans dans la Nièvre, mais après, il m'a amené à vivre 5 ans dans un petit village balnéaire de 7000 habitants qui a voté à 52% Front National au deuxième tour. Donc j'ai vraiment, une relation assez forte à toutes ces zones périphériques. Et oui, c'est assez émotionnel chez moi. C'est-à-dire qu'il y a une forme de colère, en fait, que du coup j'ai développée par une expérience de ce que c'était que de vivre dans ces territoires-là et de ce que c'est qu'une forme d'abandon politique, en fait. Et pour moi, ça a été un grand choc, l'annonce de la fermeture du parc Saint-Léger. C'est que je trouve que c'est politiquement extrêmement grave, en fait, de désertifier des pans entiers de notre territoire. Et que, en fait, la disparition du parc Saint-Léger, ça veut dire que quand vous êtes un citoyen français, que vous habitez à cet endroit-là, eh bien, à 100 km à la ronde, vous êtes privé d'art. En fait, la puissance publique a fait le choix de vous priver d'art. Comme elle a fait plus ou moins le choix de vous priver de poste, de vous priver d'un hôpital digne de ce nom et de vous priver d'une école de l'excellence.
Nous avons appris que les lieux allaient être vendus et le département nous a dit « on va vous demander de quitter les lieux ». Donc début 2021, nous avons reçu une lettre nous disant qu'ils nous demandaient de quitter les lieux fin juillet. Voilà, quitter les lieux, ça veut dire enlever tout le matériel qui a été accumulé depuis plus de 20 ans ici. Et donc, la ville nous a promis de nous trouver au moins un lieu de stockage du matériel. La question que je me pose, c'est est-ce que dans ce que je peux imaginer du futur, est-ce que ces conditions, on va les retrouver? Je ne pense pas. Donc, on a aussi un peu vendu du matériel et du mobilier. Parce que pareil, on n'aura pas autant de place. Donc, ça veut dire vendre du matériel d'occasion et préparer les cartons, faire venir des entreprises pour évaluer combien ça va coûter, tout en ne sachant pas exactement où on va. Voilà.
On nous reproche qu'il n'y ait pas assez de visiteurs et assez de visiteurs locaux. Mais les chiffres ont augmenté depuis quelques années. Donc, bon, après, c'est sûr que c'est toujours... ça reste un centre d'art, et donc c'est une fréquentation qui est quand même moindre par rapport à un stade de rugby. c'est le président du département qui avait fait cette comparaison. Mais il n'empêche que les chiffres ont quand même augmenté.
En moyenne, la fréquentation n'a pas bougé. Ce qui a bougé, c'est la répartition. Dans les toutes dernières années, les quatre dernières années, la fréquentation locale a augmenté. Donc on pourrait se dire, c'est quand même étrange, on a une fréquentation locale qui augmente et c'est à ce moment-là que le département et la région ne souhaitent plus nous soutenir. Si les publics concernent des groupes restreints, non renouvelés, et si de plus il s'agit de publics captifs, voilà, je crois qu'à long terme, quel que soit le projet, il est en danger, quoi. Je veux dire, la notion de dynamique, de fréquentation et de public est quand même une vraie question qu'il faut analyser avec des critères plus fins pour réagir et pour proposer autre chose, à la fois en termes de programmation et en termes de communication. Et je pense, voilà, que de ce fait, l'identité local du centre d'art n'était pas suffisante, en fait.
Bah, je suis assez pessimiste, à vrai dire, parce que vu le démantèlement qui est actuellement fait du site, enfin tu vois, le fait qu'on se déleste de l'intégralité de ce qui a fait ce lieu, que ce soit les meubles, que ce soit les outils, que ce soit je ne sais quoi d'autre, en fait, je sais même pas ce que va devenir la documentation, la bibliothèque, enfin tout ça me semble être en train de lentement disparaître. Donc, je me demande un peu quelle mémoire on gardera de ce centre d'art une fois que les portes seront fermées et qu'un autre projet aura pris la place dans le site du parc Saint-Léger. En fait, je pense que, de toute façon, le département n'échappe pas aux problématiques qui touchent aujourd'hui l'intégralité de la société française sur les questions de culture et de création. Ce qui, je crois, a été beau et devait être préservé au Parc Saint-Léger, c'était la possibilité non seulement d'accueillir des artistes et de construire avec eux des projets ou juste un accompagnement. Tu vois, ces résidences secondaires, elles avaient aussi ce but-là, juste de mettre en œuvre des moyens pour que les artistes sortent un petit peu des contraintes économiques, des contraintes de temps, qui sont celles, en fait, qui parfois empêchent que leur travail se développe. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus face à une pensée de la culture qui est une pensée en chiffres. Ça, c'est partout pareil. Mais tu vois, le fait qu'on s'alerte sur le peu de fréquentation du centre d'art. Je comprends pas bien quelles sont les finalités de cette inquiétude. Parce que, en réalité, le lieu n'a pas vocation à être un parc d'attractions, tu vois. Il n'y a pas d'entrée payante. L'art contemporain, ça reste une niche. Ça n'intéresse pas tout le monde. Ça n'intéressera jamais tout le monde. Ceux qui prêchent cette idée-là se trompent de problématique. C'est pas à cet endroit-là qu'il faut travailler. C'est à un autre endroit. Le but du jeu, je crois, c'est d'être exigeant, de montrer des choses qui ont du sens, qui résonnent avec notre époque, avec ce qu'on traverse, avec ce qu'on vit, et qui proposent aussi de préciser notre pensée, notre intelligence. Et là-dessus, il faut être intransigeant. Et c'est cette chose-là qu'il faut mettre en partage. C'est cette chose-là qu'il faut transmettre. C'est cette chose-là qu'il faut accompagner. C'est pas une idée inverse qui serait celle de capter, en fait, les visiteurs potentiels avec des expositions qui répondraient à leurs attentes. Je veux dire, pour ça, on a tout ce qu'il faut déjà. On a des téléphones portables dans nos poches qui jouent sur la stratégie de l'attention pour justement nous détourner de tout ce qui peut être une forme d'intelligence. Donc, je crois que cette idée-là, elle est essentielle à Poum, mais elle est essentielle ailleurs. C'est de savoir quel projet se cache derrière, tu vois, une restructuration comme ça de ces lieux. Est-ce que la question, c'est d'aller vers quelque chose de toujours plus facile, de toujours plus, comment dire, presque désubstantifié, neutralisé, qui va nous divertir, qui va nous sortir d'un chemin de la pensée qui pourrait nous aider à nous émanciper. Et moi, quelque part, ce qui m'inquiète dans cette situation, c'est que je vois dans cette fermeture, comme dans d'autres fermetures, une manière, pas forcément toujours très bien formulée, de nous enlever quand même d'une forme d'émancipation, une forme d'autonomie à agir et à penser en individu libre.
Alors, pour le futur, donc nous avons l'État qui a toujours, enfin depuis que la crise a un peu éclaté, maintenu sa position en disant qu'il souhaitait vraiment qu'il y ait une institution d'art contemporain dans la Nièvre. Et après quelques temps, la ville de Nevers s'est déclaré officiellement comme étant intéressé par l'accueil d'un tel centre d'art, donc ce qui est évidemment très positif. La question, voilà, c'est comment bâtir un nouveau projet avec quel partenaire, puisque la ville de Nevers est aussi une ville tout à fait moyenne et qui ne peut pas dégager du jour au lendemain un budget pour un centre d'art. Donc, il faut rebâtir un projet vraiment depuis le départ et intéresser des partenaires. Voilà, c'est tout un nouveau projet. Aujourd'hui, on avance très, très lentement. Je pense qu'il faut penser qu'on est sur les calendriers électoraux qui n'ont pas du tout aidé à ce que ça aille plus vite. Hein. À ce jour, on a un lieu de stockage pour nos affaires et nos archives sur la ville de Nevers. Donc, nous allons procéder au déménagement dans les jours qui viennent. Et puis nous allons chercher à développer une activité de transition avec des partenaires locaux et faire du hors les murs, on va dire, enfin, sans avoir de mur.
C'est très dur d'envisager les choses quand on n'a pas de données. C'est le budget est très flou pour l'instant, on n'a pas de lieu. Donc c'est dur de se projeter. Après, là, ce que j'imagine, c'est que si on est relocalisé à Nevers, pour avoir un lieu qui soit effectif, il va falloir plusieurs années de travaux. Donc j'imagine que dans un premier temps, on aura juste un bureau et on développera plus l'éducation artistique et culturelle, donc ce que je fais ici, mais peut-être en plus grand nombre, vraiment de faire des interventions artistiques en milieu scolaire.
Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est de reconstruire ce projet en essayant d'éviter les fragilités que j'ai pu évoquer précédemment, et notamment en termes de gouvernance. De redonner sa part à la notion d'association, la réinterroger, parce que il est clair que dans le système français, la notion d'institution culturelle gérée par une association peut parfois poser de vraies questions. Donc je crois qu'il faut mettre ces questions sur la table. Je pense qu'on ne peut pas éviter une réflexion sur la notion d'institution. Est-ce qu'un centre d'art, c'est une institution qui s'inscrit dans une structuration de paysage culturel du territoire? Et si on est une institution, on a vraiment une mission qui doit être détaillée et pas simplement le soutien à la création et aux artistes. Et voilà, ces termes-là sont beaucoup trop généraux. Je pense aussi qu'il faut s'inscrire dans cette problématique-là qui arrive maintenant avec la crise sanitaire, mais qui n'est pas due à la crise sanitaire selon moi. C'est le modèle français de structuration du paysage qui, à mon sens, arrive quand même à une sorte d'essoufflement depuis les années 80-90. Ce modèle a été centré, je l'ai entendu par ailleurs et je le pense, sur l'artiste en fait. Et depuis quelques années, il y a comme un rappel de la démocratie, dit « oh là là, il faut augmenter les publics ». Donc nous, structure, on nous demande d'augmenter les publics et de produire des statistiques, etc. Il ne faudrait pas que le nouveau modèle soit centré sur le public. Mais peut-être faudrait-il penser juste à ce que c'est qu'une œuvre, et qu'une œuvre, c'est la rencontre de deux processus. Un processus de création, mais aussi un processus de perception. Voilà, je pense que c'est des questions évidemment générales comme ça, mais qu'on ne peut pas éviter. Il faut vraiment, quand on souhaite travailler dans ce secteur, se poser ces questions profondément. Parce qu'après, quand on est un peu convaincu en termes précis, on a plus de réactivité face aux problèmes conjoncturels, justement.